Voilà, les baptêmes sont toujours des moments forts, n'est-ce pas, hein? On parle de choses tout à fait étonnantes, changement de vie, nouvelle naissance, conversion, des expressions qu'on n'utilise pas habituellement dans notre vie de tous les jours. Et je pense qu'il vaut la peine de prendre un peu de temps pour justement voir d'où viennent ces expressions. On vient de prier pour se dire qu'on allait se mettre à l'écoute de la parole. Et en fait, c'est la parole, c'est-à-dire la Bible, qui parle de tout cela. Vous l'avez peut-être compris, même si vous n'êtes pas habitué de nos cultes, ce livre n'est pas pour nous un livre comme les autres. Nous croyons qu'elle est la parole que Dieu nous adresse pour que nous comprenions qui il est et quelle est sa volonté pour notre vie. En fait, tout ce que nous avons entendu ce matin n'est pas le fruit de notre imagination ou d'une quête mystique ou d'un fol espoir. C'est magnifique de se dire qu'il y a une vie après la mort, mais si c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Mais en fait, cela vient de ce livre lui-même, de la Bible. Et cette parole nous parle notamment de rencontres que Jésus a eues tout au long de sa vie sur terre. Jésus, toujours d'après la Bible, c'est le Fils de Dieu. Fils pas dans le sens enfantement, mais fils dans le sens incarnation de Dieu. Dieu s'est fait homme pour venir nous parler dans un langage que nous comprenons. Un peu comme si moi, je pouvais me faire fourmi pour aller dire aux fourmis pourquoi les hommes agissent ainsi, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et donc, Jésus est venu, et on l'a entendu dans la première partie, pour donner un message qui s'adresse à tous. Il est venu pour sauver les hommes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait d'une manière personnelle. Nos histoires, notre culture, notre identité font que nous avons besoin d'une rencontre personnalisée pour comprendre ce que Jésus veut nous apporter. Et on l'a entendu tout à l'heure, il y a dans le témoignage de Paco, Dieu a rejoint Paco dans son langage. Il l'a rejoint dans une manière qu'il pouvait comprendre, une manière qui l'amenait à se sentir aimé, jusqu'à faire son pas de foi, à la fois la tête en l'air, et maintenant aussi la tête sous l'eau. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de nous mettre à l'écoute d'une de ces rencontres que Jésus a faites lorsqu'il était sur terre, une rencontre qui nous est rapportée par l'évangile de Jean. Nous lisons au chapitre 3, les versets 1 à 7, et si vous n'avez pas de Bible sous les yeux, le texte sera projeté. Jean, chapitre 3, les versets 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, Nicodème. Nicodème est donc pharisien, c'est-à-dire membre d'un parti religieux influent à l'époque de Jésus. C'est un enseignant profondément respecté, un chef des Juifs qui connaît la loi de Dieu, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament, sur le bout des doigts. Mais en tant que pharisien, il n'est pas seulement érudit. Il est un pratiquant zélé de la loi de Moïse. Je pourrais dire les 10 commandements, hein, si je veux chercher quelque chose auquel on peut se référer facilement. Ne pas voler, ne pas mentir, respecter le sabbat. En fait, les pharisiens avaient un zèle profond pour pratiquer la loi, notamment à cause de l'histoire de leur peuple. À de nombreuses reprises, en effet, le peuple juif a subi les conséquences dramatiques dues à ses désobéissances vis-à-vis de cette loi que Dieu leur avait révélée. Et les pharisiens s'étaient un peu donné comme mission d'enseigner le peuple à respecter scrupuleusement chaque iota de la loi afin de ne plus tomber sous la condamnation de Dieu. Et si possible aussi d'être débarrassé des encombrants romains qui étaient en Judée à ce moment-là. Les pharisiens mettaient donc tout en œuvre pour respecter chaque article de la loi qu'ils lisaient dans la Torah. Et pour ce faire, ils avaient inventé tout un tas de règles qui, selon eux, dépassaient en fait les exigences de Dieu. C'est d'ailleurs un principe qui, transmis de génération en génération, a donné ce qui parfois peut nous faire sourire dans la communauté juive. Cette idée, par exemple, qu'il ne faut absolument pas appuyer sur un interrupteur ou prendre un ascenseur le jour de sabbat, de peur qu'on serait en train d'accomplir un travail. En fait, ça vient de ce désir scrupuleux de ne pas être pris en défaut par la loi de Dieu et de se dire, bah, plus j'en fais, plus je suis sûr de ne pas être pris en défaut par cette loi. Si Dieu dit ça, plaçons la barre encore plus haute et comme ça, on sera tranquille. C'est une intention louable, en fait, hein, ce qui nous fait sourire, part d'une intention tout à fait louable. Nicodème est loin de cette image très moderne de se dire qu'on pourrait être croyant, non pratiquant. Alors lui, c'est tout l'inverse. Mais Nicodème a une autre caractéristique. Alors que la plupart des pharisiens de son époque se méfiaient de Jésus, le critiquaient, le condamnaient même parfois, lui fait preuve d'une étonnante attirance. Il sent qu'avec Jésus, il se passe un truc. Et il a des questions à poser à Jésus. Il veut le rencontrer. Poser des questions à Jésus. Ça, je suis sûr que ça t'aurait fait pas court. Être à la place de Nicodème et pouvoir lui donner toutes les questions que tu as, là, tu aurais peut-être les réponses qui te satisfont. En tout cas, c'est vraiment formidable d'avoir ce désir de se questionner, ça fait grandir dans la foi, et je pense que ça a joué un rôle dans ce que tu as partagé ce matin. Mais Nicodème, lui, il a un problème qui est souvent le nôtre aussi. Il sait très bien que s'il se positionne publiquement aux côtés de Nicodème, ça va lui coûter. Ça va lui coûter en termes de réputation, ça va lui coûter en termes de rejet, en termes de moquerie. C'est pourquoi le texte précise qu'il est venu le voir en catimini, de nuit. Voilà donc le court portrait de cet homme qui s'avance à la rencontre de Jésus. Un homme plein de zèle pour Dieu, un homme attiré par Jésus, se questionnant sur lui, mais un homme pas tout à fait prêt encore à le suivre. Peut-être qu'il ressemble à certains d'entre nous ce matin. Alors, quelle question Nicodème a bien pu poser à Jésus ? Eh bien, ça, on ne le saura pas, parce que c'est Jésus qui lance la première escarmouche. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et face au scepticisme de Nicodème, avec cette affirmation, Jésus poursuit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est une manière un peu énigmatique de parler, mais en fait très ancrée dans la culture juive. Et ce qui devrait retenir notre attention, c'est cette proposition donc, naître de nouveau. C'est plutôt alléchant, non ? Combien de fois dans une relation, dans un travail, on aimerait pouvoir tout effacer ? Gommer les moments maladroits, enlever là où on a pu blesser les autres. Vous savez, la fameuse touche undo de nos ordinateurs qui n'existe pas dans la vie réelle, hein, vous l'avez remarqué. On aimerait pouvoir tout effacer et repartir à zéro. Eh bien, c'est ce que là, Jésus propose. Mais il y a aussi autre chose dans cette idée de naissance. Quelque chose qui a dû déconcerter Nicodème. Vous, vous avez fait quelque chose pour mériter de naître ? Vous avez envoyé un message à quelqu'un ? Vous vous êtes illustré par vos bonnes œuvres pour pouvoir venir à la vie ? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. C'est une des particularités de la naissance. On ne peut pas la produire par nous-mêmes. C'est un cadeau qu'on nous fait. Une grâce qui nous est donnée. Derrière cette image de la nouvelle naissance se cache quelque chose de fondamental. Qu'on soit quelqu'un de bien à nos yeux, comme l'était certainement Nicodème, ou pas, là n'est pas la question. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Aucun effort à faire, aucun mérite. D'après Jésus, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ce que Jésus annonce là est tellement déconcertant pour Nicodème qu'il ne peut s'empêcher de répondre avec perplexité. Et comment un homme de mon âge peut-il faire pour naître de nouveau? Faut-il qu'il retourne dans le ventre de sa mère? Prenez pas ça pour de la naïveté. Hein. Nicodème est un érudit. Il joue plutôt avec les mots en faisant comprendre qu'il pense que ce que annonce là Jésus est tellement déconcertant qu'il se dit ne dis pas plus que tu peux promettre. Quel dialogue délicieux. On commence à voir ce que cela veut dire que Jésus s'adresse personnellement à chacun. Parce que si c'était quelqu'un d'entre nous qui avait été face à Jésus, je ne pense pas que Jésus aurait répondu comme le suggère le parallèle qu'il y a dans ce texte. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et naître d'esprit. Il ne se serait certainement pas exprimé ainsi. Pourquoi? Parce que si vous avez entendu Élisabeth tout à l'heure, vous vous direz, il y a un problème. C'est quoi naître d'eau? Quand on pense naître d'eau, on se dit c'est le baptême, non? Est-ce que Jésus est en train de dire là qu'il faut se faire baptiser pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Pas vraiment. Pas vraiment. Jésus vient en fait ici sur le terrain de Nicodème. Il a affaire en face de lui à un maître de la loi et il lui parle comme à un maître de la loi. Tu ne devrais pas être étonné, Nicodème, parce que je te parle de nouvelle naissance. Parce que la loi que tu étudies jour et nuit, elle en parle. Alors, pas de nouvelle naissance, mais de naître d'eau et de naître d'esprit. Lisez avec moi ce que le prophète Ézéchiel a écrit plus de 600 ans avant cette rencontre. Dans un contexte de jugement, alors que des heures particulièrement sombres s'annoncent sur le peuple d'Israël, parce qu'une fois encore il s'est montré infidèle à la loi, et que retentit, comme souvent chez les prophètes, tout d'un coup, une petite note d'espoir. Il n'en sera pas toujours. En ce temps-là, prophétise Ézéchiel, c'est Dieu qui parle là, je répandrai sur vous une eau pure. Hashtag naître. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Hashtag naître d'esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ce qu'annonce Ézéchiel ici? Imaginez-vous dans une période particulièrement sombre de votre vie. Vous avez tout gâché. Vous avez dit des horreurs à votre conjoint. Ou c'est votre famille, peut-être, que vous avez l'impression d'avoir trahi, ceux que vous aimez le plus. Vous savez que vous avez déçu profondément vos parents, vos enfants. Ou que vous n'avez pas pris soin d'un ami qui en avait vraiment besoin à ce moment-là. Et vous savez que ce qui s'est passé là sera comme une tache indélébile pour toute votre vie. Et voilà qu'on vous fait cette proposition. Je vais répandre sur toi une eau pure qui va effacer tout ce que tu as raté. Et pour que tu ne t'enlises plus, je vais t'équiper d'un cœur. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Vous ne croyez pas que vous auriez envie de dire Vas-y, c'est tout ce dont j'ai besoin. Eh bien, c'est exactement la proposition que Jésus est en train de faire à Nicodème. Ce dont tu as besoin, Nicodème, pour une véritable rencontre avec Dieu, c'est pas de chercher encore plus à te donner des exigences pour obéir à la loi. C'est pas mauvais en soi. Mais c'est pas là que tu vas trouver ce dont tu as tellement besoin. Ce que tu as besoin, Nicodème, c'est de naître de nouveau. Laisser cette eau pure te purifier et recevoir un cœur qui bat désormais au rythme de l'Esprit de Dieu. Et c'est exactement ce que je, Jésus qui parle, suis venu accomplir. Quelle proposition extraordinaire! Mais il y a un problème. Un problème pour quelqu'un comme Nicodème. Dans notre texte, certes, Nicodème est venu à Jésus, sans doute parce qu'en tant qu'érudit, il avait soif d'entendre ce que Jésus pouvait compléter, peut-être, à son enseignement. Mais ce que Jésus est en train de lui dire, là, c'est qu'en fait, ce n'est pas d'une plus grande connaissance qu'il a besoin, mais de Jésus lui-même. Et la question pour un Nicodème, c'est « Mais pourquoi moi, j'aurais besoin ?» de naître de nouveau. Un Nicodème a très certainement l'impression de déjà faire tout ce qu'il faut pour mériter l'approbation de Dieu. Et je crois qu'objectivement, si un Nicodème vivait aujourd'hui dans notre contexte, on se dirait que c'est quelqu'un de bien. Des Nicodèmes, on en rencontre beaucoup aujourd'hui. Pas dans le sens religieux, hein, ça n'a plus vraiment la cote. Mais dans le sens de penser qu'on peut être quelqu'un de bien sans avoir besoin de Dieu pour cela. Être une bonne personne, s'efforcer de faire le bien, c'est suffisant, non? Après tout, on verra bien à la fin s'il y a un Dieu. Et puis d'ailleurs, si j'ai fait ce qui était bien, Dieu ne peut être que content avec moi à la fin de ma vie. J'aimerais vous raconter cette petite histoire pour tenter de vous convaincre qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette manière de voir les choses, de se dire que faire le bien, c'est suffisant. Imaginez une veuve qui élève seule son fils. Elle aime son fils et lui consacre son temps, son énergie. Malgré ses faibles revenus, elle veut qu'il réussisse. Alors elle consent à de nombreux sacrifices. Et elle réussit à l'envoyer ainsi dans les bonnes écoles, dans les bonnes universités, est-ce qu'il réussisse ses études. Mais elle lui enseigne aussi des valeurs importantes. Réussir sa vie, c'est pas que faire carrière. Mener une existence convenable, dire la vérité, travailler dur, être généreux avec les autres. Et à force de sacrifices, à force d'énergie, tout cela fonctionne. Cela porte du fruit. Notre homme réussit sa carrière. Il fonde une famille. Il est quelqu'un d'aimé de ses proches. Quelqu'un de bien. Quelqu'un d'autre. Pourtant, quelque chose cloche. Pour une raison qu'on ne sait expliquer, cet homme coupe les ponts avec sa mère. Pas tout à fait. Il lui envoie une carte pour son anniversaire, mais il ne va jamais la voir. Il ne prend pas de temps avec elle. Si vous lui demandiez de décrire ses liens avec sa mère, il pourrait vous répondre « Mais je fais ce qu'elle aime. » Ce qu'elle m'a appris, ce qu'elle m'a transmis, je dis toujours la vérité, je travaille dur, je me soucie des autres. En entendant ça, vous diriez, ah ben alors, tu aimes passer du temps avec elle? Et là, c'est la bouche froide. En fait, non, je ne la vois jamais, mais je mène une vie convenable, non, c'est ce qu'elle m'a transmis. C'est ce qu'elle a voulu. Comment réagiriez-vous face à cela? Je crois que vous ne seriez pas tellement satisfait avec cette réponse. Vous vous diriez, mais en fait, que la vie de cet homme soit conforme à ce que sa mère veut, ça ne suffit pas. En l'absence de relation avec elle, son comportement devient même condamnable. Car ingrat. C'est elle qui, par son don de temps, d'énergie, d'argent, a permis qu'il devienne ce qu'il est. Et sa vie a beau avoir réussi en tout point, il lui manque l'essentiel. l'amour et la loyauté pour celle qui a tout sacrifié pour lui. Faire le bien n'est pas suffisant. Si Dieu existe, nous lui devons littéralement tout. Si Dieu existe, nous lui devons beaucoup plus qu'une vie correcte, qu'une vie moralement bonne. Il mérite d'être au centre de notre vie. Faire le bien sans chercher à aimer Dieu, c'est faire preuve de la même ingratitude que le jeune homme de mon histoire. C'est pourquoi il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître d'en haut pour vivre cette nouvelle relation que Jésus nous propose. Mais alors, qui est appelé à naître de nouveau? Jésus a parlé en des termes que Nicodème pouvait comprendre. Et il y a même des choses où il n'y a peut-être que Nicodème qui pouvait les comprendre, hein, quand on les creuse. Mais Dieu ne s'y prend pas autrement avec nous aujourd'hui? Est-ce que le même Dieu qui vous a été présenté ce matin n'est pas en train d'agir aussi d'une manière particulière dans votre vie pour vous appeler à lui? Moi, c'est ma conviction. Pour chacun d'entre nous ce matin, mais pas juste parce que vous êtes là, moi je pense que c'est ma conviction pour chacune des personnes qui est sur cette terre. Dans la suite de l'évangile, Jésus va rencontrer des gens autrement plus cabossés par la vie que Nicodème. Une femme samaritaine et ses cinq maris, un homme né aveugle, une femme adultère traînée dans la poussière par ses détracteurs. Qu'est-ce que ça nous dit, toutes ces rencontres? Eh bien, que nous soyons un homme bien, comme Nicodème, que nous soyons un homme qui a plein de problèmes, qui est blessé par la vie, que nous soyons une mère de famille, un infirmier, un étudiant, Jésus nous lance ce même appel. Il faut que tu naisses de nouveau. Et la vraie question est de savoir, bien, est-ce que la proposition de Jésus me fait envie ce matin? Est-ce que naître d'une eau qui purifie tous mes ratés, avoir un nouveau cœur pour vivre les moments difficiles de ma vie, c'est ce à quoi j'aspire? Si cette proposition vous attire, eh bien, c'est possible. C'est possible de le vivre. On l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage qui nous a été proposé. Il suffit de croire que Jésus est mort à notre place. De confesser qu'il n'y avait pas d'autre solution que cela. Ça, c'est mieux. Pas d'autre solution que Jésus meure sur la croix à ma place. Pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Qu'il n'y ait plus rien qui empêche Dieu de venir dans ma vie par son esprit. Et ça, ça m'amène à mon dernier point. Qu'est-ce que cela change, en fait, d'être né de nouveau? Est-ce que c'est la promesse d'une vie plus facile? L'annonce de la résolution de tous nos problèmes? C'est ça, repartir à zéro? Alors, c'est vrai que parfois, certaines situations peuvent s'arranger, mais ce n'est pas vraiment la promesse que Jésus fait ici. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chiens ne font pas des chats. Vous aurez beau apprendre à un chien à se comporter comme un chat, il ne sera jamais un chat. Et bien de la même manière, il est impossible de prendre un être humain égocentrique et de lui apprendre à se comporter comme Dieu voudrait. Qu'est-ce que ça implique? Pas la fin des difficultés, hein. Il ne semble pas que ce soit ça l'équipement qui nous soit donné, mais un esprit nouveau pour les affronter. Qu'est-ce que cela implique? Un plus grand défi, désormais nous appuyer sur le fait que nous sommes nés de nouveau, avoir foi que nous sommes nés de nouveau, ne pas revenir en arrière et chercher à faire le bien par nous-mêmes comme Nicodème, mais croire que c'est parce que Dieu a placé un cœur nouveau et un esprit nouveau que désormais, nous pouvons nous réjouir d'accomplir la volonté de Dieu. Avoir foi qu'en Christ, tout au long de notre marche chrétienne, les échecs, les ratés, continueront d'arriver. Et pendant un temps, nous aurons même à assumer les conséquences de ces actes. Mais devant Dieu, ils sont comme écrits au crayon papier. Il est prêt à les gommer à chaque fois que nous nous approchons de lui. Alors, nous ne savons pas en définitive si Nicodème a relevé le défi de la nouvelle naissance. Voilà qui nous laisse toute latitude pour y apposer notre propre réponse, n'est-ce pas ? Jésus dit à Nicodème, nous dit ce matin, il te faut naître de nouveau. Qu'est-ce que vous répondez à cette invitation ? Et puis, pour ceux qui ont déjà pris cet engagement, l'invitation est toujours là. Est-ce que tu vis conformément à cette nouvelle naissance ? Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui dans ta marche ? Le manque de connaissance de la volonté de Dieu ? Le manque de foi en cette promesse que tu as tout ce qu'il te faut pour vivre selon la volonté de Dieu, ce nouveau cœur, ce nouvel esprit. Le manque de piété, de temps passé avec ton Père, pour que s'enracinent en toi les bienfaits de cette nouvelle naissance.